France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Ainsi va la vie, ainsi va l'actualité. Une fois la tempête terminée, on passe à un autre sujet. La tempête reste pourtant dans les mémoires et dans la chair des habitants, entre autres de la vallée de la Roya. C'était il y a un an et comme nous sommes dans les Alpes-Maritimes cette semaine, nous allons prendre des nouvelles, de bonnes nouvelles, de ce territoire qui a été ravagé par les crues causées par la tempête. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons feuilleter aussi les pages du magazine Village de cet automne avec Sylvie Le Calvet, à la découverte d'autres initiatives dans le monde rural.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Ludivine Berger, bonjour.
Bonjour.
Ludivine, d'abord merci pour votre courrier qui nous a touchés, mais au-delà de l'émotion, parce que vous écrivez, même s'il y a la sidération et son effet, il y a aussi une réalité positive. L'impensable est possible. Nous avons ainsi réalisé l'impossible. Avoir un voilier dans la montagne, c'est fou. Replanter des vignes ensemble, atteler une bibliothèque à un âne et réaliser un documentaire avec des adolescents. Pour votre histoire, Ludivine, vous vous appelez berger, vous êtes venue à la Roya pour être bergère?
Oui, c'est ça. J'ai été embauchée par un berger pour 3 mois et finalement je suis restée plusieurs années et je suis tombée amoureuse aussi des montagnes.
Ouais.
Donc je suis restée dans la vallée de la Roya.
Et vous êtes animatrice de la Confédération paysanne du département et vous travaillez pour l'association Les Amis de la Roya et aussi la Tiapea, on dit comme ça?
Tiapea. Alors non, la Tiapea c'est une association qui s'est créée sur la Brigue. Au lendemain de la tempête, en fait, il y avait de la boue partout et des habitants de tous bords, de toutes parts, se sont retrouvés à enlever la boue et dans la miellerie du village, des contacts se sont faits et la Tiapea, donc, c'est restaurer des anciennes terrasses pour faire un jardin partagé et un vignoble.
Et avec la mairie de la Brigue, vous envisagez, et d'ailleurs la Chambre d'agriculture, de créer un conservatoire de cépages patrimoniaux?
Oui, et ben, en fait, des fois, les associations, elles nous emmènent plus loin qu'on l'avait imaginé ou même rêvé et la Chambre d'agriculture du Var nous a contacté pour faire un conservatoire des cépages matrimoniaux à la Brigue.
Et puis alors là, c'est digne d'un film, c'est Fitzcarraldo. Vous avez monté vers la vallée un voilier?
Oui, c'est ça. Après la tempête, il y a un vieux rêve qui a été réalisé par quelques marins fous qui vivent dans nos montagnes. Ils sont allés chercher un voilier de 7 mètres de long et ils l'ont ramené ici à la Brigue également pour le retaper et apprendre la mer aux enfants d'ici et profiter du littoral qui est vraiment pas loin. Ce sera de la sortir en mer et puis de laisser un marin sur le bateau et proposer d'abord des sorties à la journée puis ensuite des sorties pour plusieurs jours. Et quand on a fini l'escapade du bateau, on le remonte dans la Brigue, dans son abri, sur un tiers-lieu collectif.
Et donc vous avez attelé, je cite, une bibliothèque à un âne?
Oui, ça, c'est le projet fou aussi d'une autre association qui s'appelle Lifantiti, qui a été créée juste après la tempête. C'était compliqué au niveau de l'électricité, de l'eau, il n'y avait plus de cantine scolaire, les parents et puis d'autres se sont mobilisés pour refaire faire des activités et occuper ces enfants pour pas qu'ils subissent toutes les conséquences de la tempête. Donc, il y a eu plusieurs ateliers qui ont été créés et puis pour faire comme une école, en attendant que tout redevienne normal. Et puis de là, on a imaginé faire une bibliothèque mobile. Et comme il y a des ânes dans le village qui participent souvent aux activités culturelles du village, comme on n'a pas forcément de local, qu'on vit beaucoup dehors dans nos montagnes, on a décidé de balader les livres en ânes.
Est-ce que le paysage conserve encore les stigmates de la tempête?
Oui, bien sûr. Tous les lits de rivière sont vraiment des champs de cailloux. Et la route n'est pas si facile à pratiquer qu'avant. Il reste beaucoup de feux pour les travaux. Il y a beaucoup de ponts qui ne sont pas encore définitifs. Et certaines maisons ne sont pas reconstruites à cet endroit-là, mais certaines ne sont pas encore détruites. Enfin, les stigmates, on les voit régulièrement.
Ouais. L'espoir vient souvent des plus jeunes, lorsqu'ils font montre de vouloir construire quelque chose. Donc des adolescents ont tourné un film, un documentaire.
Eh bien oui, ça aussi, ça a été au départ trouver une activité pour occuper ces collégiens qui pouvaient plus aller au collège parce que là, c'était vraiment, il y avait même plus de route pour aller jusqu'au collège, sans parler du reste, plus de professeurs, plus de cantine, plus rien. Mmh. Donc c'est pareil, une artiste qui habite au village, une vidéaste, a proposé aux jeunes du village de s'armer d'une caméra et d'aller filmer surtout les gens, en fait. C'est surtout un très beau documentaire de témoignage sur comment on s'organise, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on est en train de vivre ensemble et comment on transcende un peu tout ça. Et ce documentaire, il a un format de 52 minutes et il va être passé dans un cinéma d'art et d'essai de Nice. Donc c'est un grand succès pour nous.
Alors quand même une précision, il y a une cagnotte litchi pour le yacht club de La Roya?
Oui, bien sûr, pour mettre en place toutes ces activités et permettre à tous de pouvoir profiter de ce bateau dans les meilleures conditions. C'est toujours le nerf de la guerre, donc oui, on fait appel à qui veut soutenir ce projet fou de voilier dans la montagne.
C'est sur le site litchi.com, le Yacht Club de La Roya, et il y a une page Facebook aussi pour l'association de la Chiapea, avec donc la restauration d'anciennes terrasses en jardin partagé. Merci pour ces beaux messages d'espoir, Ludivine.
Merci à vous, au revoir.
France Inter, carnet de campagne.
On apprécie le réseau des librairies indépendantes du sud de la France, particulièrement de Provence, qui unissent leurs efforts pour créer des opérations de grande envergure et nouer des partenariats avec les acteurs de la chaîne du livre, les associations ou les établissements scolaires. Les Libraires du Sud est donc le nom de ce groupement de 60 professionnels et passionnés qui a vu le jour en 1998. Depuis le début du mois jusqu'au 16 octobre, il vous reste donc encore 3 jours, le réseau anime son automne en librairie avec 14 auteurs invités en tournée dans 26 des 60 librairies dans des domaines variés, les romans, les essais, la BD, les livres jeunesse. Cela implique des débats, des rencontres et inévitablement des signatures. Parmi les membres du réseau figure la librairie Caractère Libre, ouverte depuis 8 ans à Ops dans le Var. Sa particularité est d'être une coopérative depuis 3 ans et d'être la seule dans un rayon de 40 km à la ronde. Avec plus de 10 000 références, près de 300 coopérateurs, cette librairie est bien plus qu'un commerce puisqu'elle est un vecteur de rencontres, d'échanges et d'animation. Nous profiterons d'ailleurs de notre passage la semaine prochaine dans le département du Var avec le jeu des 1000 euros pour faire la visite de ce lieu. Si vous voulez avoir plus d'informations, le site c'est Libraire du Sud, donc libraire évidemment au pluriel, librairedusud.com. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, rebonjour, puisqu'on a parlé au début du mois du nouveau numéro du magazine Village. Je vous rappelle que vous êtes directrice de publication de ce magazine dont le numéro de septembre est paru il y a quelques semaines. Pendant 3 mois, vous pouvez en profiter. Il y a beaucoup de dossiers qui nous intéressent, comme toujours, puisqu'on a plein de points communs. Et en particulier, je découvre un sujet que je ne connaissais pas, et un programme que je ne connaissais pas, c'est le programme Erasmus Rural, des jeunes au service du village, comme l'écrit Axel Puig dans son reportage, à Aurignac, en Haute-Garonne. Margot et Alexine sont venus en service civique pour travailler avec des associations locales et mettre en chantier de nouvelles dynamiques.
Oui, c'est intéressant parce que effectivement, on voit quelques collectivités qui prennent des services civiques sur un projet qu'elles ont déterminé. Mais déjà, c'est pas facile d'avoir l'agrément, ça prend du temps, c'est lourd. Et finalement, ce système d'Erasmus rural, porté par la structure INSIT, qui a mis ça en œuvre, c'est Thibaut Renaudin qui est de maire de la commune de Termes d'Armagnac, un petit village de 190 habitants, qui a eu cette idée géniale, on va le dire, de monter une structure qui est une sorte d'agence de services civiques au service des projets des petites communes rurales. Et donc, ça peut dire qu'une petite commune rurale, elle fait appel à une site, et puis, dans le cadre du programme Erasmus Rural, elle recrute des jeunes en cours d'études ou qui veulent se faire une première expérience en service civique, au service de projets de valorisation d'une richesse locale qu'elles ne peuvent pas faire avec, bien sûr, un chargé de mission au démarrage. On est au pré-projet. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Le site d'INSIT, c'est in-site-france.org. Et puis, on s'arrête aussi sur les portraits, puisque chaque trimestre, il y a toute une série, une batterie de portraits. J'aime beaucoup celui de Marius, un futeur ambulant à Brazza en Plaine, c'est pas loin de chez moi, c'est en Côte d'Or. Et alors je découvre que ce fameux Marius, qui est rémouleur ambulant, était jadis, sous un autre nom, parce que là il a pris le nom de son grand-père, était le fameux rémouleur qui venait aiguiser toute la coutellerie des grands hôtels et des grands restaurants parisiens depuis son taxi londonien.
Tout à fait, et même à l'Élysée d'ailleurs, hein, oui. Il faisait ça. Il a été cuisinier aussi de 18 ans à 50 ans. Et puis avec ses économies, en gros 70 000 euros, il s'est acheté une roulotte qu'il a complètement aménagée, mais avec des panneaux solaires, toute la technologie, pour faire un atelier de rémouleur ambulant. Et il part toute la belle saison, on va dire, alors cette année je sais pas trop ce qu'était la belle saison, mais en gros de juin à septembre, avec son cheval et la roulotte pour aller comme atelier ambulant, même juste de la Côte d'Or jusqu'en Bretagne, hein. Il a fait une fois 1400 km, et puis le reste de l'année il reste cuisinier dans un centre équestre. Mais c'est un très très beau projet, c'est même en gros une roulotte à assistance électrique puisqu'il n'y a qu'un seul cheval, dont il a fallu qu'il apprenne d'ailleurs à
qui s'appelle s'occuper. Marguerite, ça me rappelle quelque chose, ça aussi.
Voilà, c'est Marguerite, oui. Pas une vache, c'est un cheval. Ouais. Et donc il faudrait pour le poids de la roulotte presque deux chevaux, mais il a fait un système d'assistance électrique qui permet à Marguerite de sans trop d'efforts de faire ce trajet très long tout l'été.
Alors il y a un autre cas, bah tiens, on revient du côté de chez vous, enfin pas loin de chez vous, à Alençon dans l'Orne, avec Jeff qui fabrique, qui était un précurseur, il y en a beaucoup maintenant, des pailles en paille.
Oui, c'était même le premier, hein. Il était artiste plasticien, sinon amateur des sports de glisse, et puis il avait un cheval, là encore on revient aux histoires de chevaux, il paillait le box de ses chevaux, c'est un peu comme toutes les innovations, ça arrive comme ça, et il s'est dit, mais c'est quand même dommage ces petites pailles qui ressemblent à des pailles pour boire, qu'on les utilise pas. Et il s'est dit, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Et ça, sauf qu'il avait un problème de machine pour ne pas écraser la paille, pour se dire si on l'utilise à la place des plastiques qui viennent complètement polluer les océans. Et il a fini par trouver une vieille machine avec un agriculteur des années 50 qui permettait de garder la paille en état. Ça tombe de temps en temps en panne, mais ça marche quand même bien, pour pouvoir faire des pailles en paille. Parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement, par exemple, des pailles en bambou, hein, elles viennent d'Indonésie, elles ne sont pas stérilisées. En termes de développement durable, c'est très très moyen vu le transport. Et là, c'est de dire, mais on peut le faire en paille. Et pour les stériliser, pour les mettre en sachet, ils travaillent même avec l'ADAPI, donc une association d'handicapés, qui sont contents de trouver une activité qui a du sens et puis de produire localement ces pailles.
Oui. Et il en produit quand même 150 000 par mois. Mais comme je disais, comme vous le relatez dans l'article, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris le même exemple pour développer cette production de paille en paille, et en particulier
oui,
il en utilise le seigle.
Hein. Oui. Oui, c'est ça, il en est très content. En fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était que ça puisse être testé, lancer l'idée, et qu'après, d'autres le fassent sur d'autres territoires aussi, et pas tout produire ici, c'était pas du tout le but. Donc ça y est, c'est pari réussi pour ça, il faut encourager ce type de production et ce type d'achat de produits.
Merci de mettre en valeur toutes ces richesses et tous ces savoir-faire, Sylvie. Le site du magazine Village, Village Magazine .fr. À très vite, Sylvie.
À bientôt. Au revoir.
Midi 45 sur France Inter. On reste dans les Alpes-Maritimes avec le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet à Roquefort-les-Pins.